Merci beaucoup. Alors, moi, je vais donc je suis chercheur aussi, mais je vais vraiment parler à titre citoyen. Enfin, c'est-à-dire, il faut vraiment attendre aucune connaissance scientifique, aucune enquête, aucune réflexion sérieuse, fondée, longue de ma part sur le sujet, parce que j'ai absolument jamais travaillé sur l'exception. J'ai un peu hésité quand Caroline et Pierre m'ont proposé de participer, et puis je me suis dit bon, ça peut aussi m'amener à, alors je connais bien, j'ai pas encore eu le temps de lire vos travaux, mais je vais m'y plonger prochainement. Je connais bien les travaux de Vanessa, et voilà, et en tant que citoyen évidemment que je me sens touché et concerné par tout ça. D'un point de vue professionnel, moi je fais de la philosophie politique et puis de la sociologie du militantisme, donc je vais quand même m'appuyer un petit peu sur ce que je fais en tant que chercheur pour m'adresser à vous maintenant. Mais vraiment, voilà, je vous avertis, je vais dire beaucoup de banalités, beaucoup de bêtises aussi, donc je m'en excuse par avance et vous me rectifierez tout à l'heure. Juste un point aussi avant de commencer, je travaille en ce moment, je vis à Madrid. Donc, comme toute personne résidant en Espagne en ce moment, je suis happé par ce qui se passe en Catalogne, même si moi je suis là-bas pour travailler sur Podemos. Mais là, bon, Podemos, c'est un peu entre parenthèses, la Catalogne prend le dessus. Et alors, il n'y a pas, d'un point de vue strictement juridique, on n'est pas en situation, il n'y a pas d'état d'exception. Il y a dans la Constitution espagnole un article, l'article 116 sur l'état d'exception, il n'a pas été activé. Demain sera probablement, mais je dis probablement parce que on est vraiment dans une incertitude totale de jour en jour sur ce qui se passe en Espagne, mais demain sera probablement activé le fameux article 155 dont vous avez peut-être entendu parler, où là vraiment le président du gouvernement va suspendre l'autonomie de la Catalogne. Mais en fait, de toute façon, j'ai envie de dire qu'il soit activé demain ou pas, c'est pas vraiment le problème, parce que ça fait déjà 2 mois que de facto on est dans une situation exceptionnelle, au sens où des ministres catalans sont gardés à vue, des dirigeants d'associations sont en prison actuellement, des réunions citoyennes sont interdites, des organes de presse sont fermés, les comptes de la région catalane ont été mis sous tutelle de l'Espagne, et tout ça de manière pas tout à fait constitutionnel, enfin en tout cas beaucoup de constitutionnalistes par ailleurs politiquement, enfin je veux dire très, voilà, qui peuvent être même très proches du PP ou quoi, disent mais là tout ce qui est en train de se passer c'est quand même assez bizarre, on sait plus trop si on est dans le droit ou pas dans le droit. Donc il y a de facto, voilà, une situation d'exception en Espagne, et bon, c'est pas la, enfin attention au parallèle avec la France, même si évidemment il y a des techniques de répression aussi, enfin on peut faire des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui en France, mais là-bas c'est pas l'ennemi public, c'est pas 10, 100 000 ou même 10 000 terroristes, c'est 4, 5 millions de Catalans qui n'arrivent pas avec une Kalachnikov, mais avec un bulletin qui veut glisser dans une urne. Voilà. Je le dis de manière un peu partisane, mais voilà, ce qui pose problème aujourd'hui à l'État espagnol, c'est d'ailleurs pas que ces 4 ou 5 millions de Catalans veuillent l'indépendance, parce que en fait c'est même pas ça la question, c'est qu'ils veulent l'autodétermination. L'autodétermination, c'est pas l'indépendance, hein. Il y a 80% des Catalans qui veulent simplement pouvoir voter pour dire ce qu'ils veulent pour l'avenir. Mais parmi ces 80%, il n'y en a même pas la moitié qui veulent l'indépendance. Et ce qu'on leur refuse, ce n'est pas l'indépendance, c'est simplement de pouvoir voter. Donc je le dis pour préciser, mais...
Je vais juste intervenir, parce qu'en fait, depuis hier, pour parler de ça, la Catalogne française est propose d'héberger le gouvernement qui serait en exil de la Catalogne espagnole. Donc ce truc-là est en train de se développer à l'insu des médias, je crois, en même temps. Et ils ont même proposé des logements, 25 logements, alors, et en fait, de recueillir des dons. Voilà, c'est juste une part.
Merci de la précision. Alors je clôt la parenthèse, mais c'était juste comme ça pour introduire, avant que j'oublie, parce que j'en reparlerai pas, mais pour introduire cette affaire-là éventuellement dans nos discussions. Alors bon, quelques remarques préliminaires. D'abord, deux, trois remarques préliminaires avant d'en venir un peu à ce que je peux voir moi en tant que sociologue du militantisme, ou voilà, un peu en faisant de la philosophie politique. Première remarque, l'état d'urgence ne sort pas de nulle part. Hein, c'est-à-dire que moi, mon sentiment, c'est que la proclamation au lendemain du 13 novembre de l'état d'urgence, ça vient, c'est pas une rupture fondamentale avec ce qui se passait depuis 10-20 ans, quoi. Ça vient accentuer, aggraver peut-être une tendance, mais qui était déjà là, qui est une tendance sécuritaire, qui est manifeste de tout un tas de façons. 13 lois de surveillance ou d'antiterrorisme en 15 ans, ben voilà, ça dit ce que ça dit, avec la nouveauté permanente. Vous avez un document accessible en ligne, hein, tout à fait intéressant, qui s'appelle le bulletin officiel des annonces des marchés publics publique. Vous pouvez voir tous les marchés publics de l'État, ça remonte assez loin. Et comme ça, par curiosité, je suis allé voir ce qu'il en était des commandes par l'État français de Flashball. Les armes et les munitions inclus. J'ai noté les chiffres, excusez-moi parce que je n'allais pas m'en rappeler. 300 000 euros d'achat de Flashball par l'État en 2005. 1 million en 2010. Et l'an dernier, je vous laisse deviner combien ? 5,5 millions. 5,5 millions d'euros d'achat de Flashball. 115 000 balles de Flashball, donc de quoi en tirer 315 par jour en prenant en compte les jours fériés. Voilà. Donc je pense que c'est symptomatique d'une tendance. Deuxième point que je voulais mentionner aussi, je pense que cette logique sécuritaire, évidemment que l'État en est un acteur essentiel, mais ce n'est pas, il me semble, le seul acteur. Il y a aussi des entreprises. Là, en l'occurrence, je mentionnais celles qui vendent du Flashball. Il y a le marché. Alors, il y a le marché de l'armement, hein, tout ce qu'on vend là, à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, on s'en félicite. Mais il y a aussi un autre marché qui est le marché des armes sublétales. C'est le marché du maintien de l'ordre. Hein, c'est un autre marché, il est différent. Il a son propre salon qui se tient chaque année à Paris, le Millipol. Il y a encore une dizaine d'années, c'était 250 exposants. Aujourd'hui, c'est presque un millier d'exposants. C'est un marché qui a une croissance annuelle de 8%. C'est énorme, 8%. Il y a d'autres domaines qui aimeraient bien être à 8%. Et voilà, une entreprise hein, qui fait florès dans ce milieu-là, qui est un peu représentative de la bonne santé du milieu, c'est, vous la connaissez toutes parce que son arme fétiche, vous la connaissez comme le Flashball, c'est l'entreprise Taser, qui s'est fait un nom à Seattle dans les années 2000, là, en 2000 avec les 99 peut-être, les manifestations intermondialistes. Et Taser, si vous voulez, voilà, c'est une entreprise qui organise chaque année 2500 journées de formation auprès de policiers, qui finance des colloques, des journées d'études comme celle-là, qui achète des encarts publicitaires, pas comme celle-ci, mais comme d'autres, qui achète des encarts publicitaires dans la presse professionnelle policière et qui a même créé une fondation, la Fondation pour les familles, alors pas pour n'importe quelle famille, pour les familles des policiers blessés, mais voilà, qui a une dimension vraiment, disons, offensive d'un point de vue marketing. Et donc dans la logique sécuritaire, et ça rejoint ce que disait Karine, c'est, je disais, il y a l'État, il y a peut-être aussi les entreprises, et puis c'est une question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas nous aussi, voilà, est-ce qu'il n'y a pas formation d'une, je ne sais pas comment le dire, c'est un peu pompeux, d'une personnalité, d'une subjectivité autoritaire, sécuritaire, qui serait en demande aussi de ça, quoi. Voilà, mais ça, je pense que c'est une discussion aussi qui est importante et qu'on pourrait avoir. Et alors, troisième remarque préliminaire, et après j'arrêterai avec tout ça, c'est que il me semble qu'il y a un lien, alors consubstantiel, pas forcément, mais en tout cas, il y a un lien fort entre la logique sécuritaire et la logique néolibérale. Pour des raisons toutes bêtes, mais d'abord parce qu'on l'a dit, la sécurité, c'est un marché, donc du coup, il faut marchandiser, il faut investir ce domaine-là. Et puis aussi parce que, alors ça fait peut-être un peu mécanique de présenter les choses comme ça, mais bon, je suis désolé de le faire aussi brutalement, plus on s'attaque aux droits sociaux, plus aussi ça suscite des résistances, et plus ces résistances, il faut les traiter, les réprimer, les encadrer, et donc voilà, ça crée du sécuritaire. Mais ça, moi je le dis brutalement, mais il y a quand même des travaux un peu sérieux, je pense, qui attestent de l'imbrication de logique néolibérale et logique sécuritaire. C'est important parce qu'on peut aussi critiquer cette logique sécuritaire d'un point de vue tout à fait libéral, d'un point de vue pas néolibéral, mais libéral au sens politique et philosophique du terme, quoi. Enfin, moi, c'est en grande partie parce que, oui, je me considère politiquement comme un libéral que je suis opposé à ces mesures-là. Donc, je le dis parce que, voilà, je pense que néolibéralisme, c'est pas le débouché logique du libéralisme. Il y avait quelques éléments que je voulais dire concernant, parce que c'est vrai que moi, une bonne partie de mon travail, là, en ce moment, avec les militants de Podemos, avant, avec des désobéissances civiles, c'est de regarder un petit peu comment agissent au quotidien ces gens-là, quels sont leurs parcours, leurs trajectoires, quelles sont aussi leurs idées. Il y a quelques observations que je m'étais faites, mais je vous parlais de banalité, et de toute façon, c'est des choses qui ont été beaucoup mieux documentées par le travail historique, notamment, que vous avez pu faire l'une et l'autre. C'est, je pense que ça, on l'a tous vu, les cibles, il y a les cibles officielles, les cibles avouées, puis il y a les cibles inavouées, en l'occurrence pour ce qui nous concerne aujourd'hui en France, aussi bien les mouvements sociaux que nos concitoyens musulmans, enfin réels ou supposés hein, d'ailleurs. Bon, mais voilà, là-dessus, je vais passer très vite parce que je pense que c'est bien vu. Peut-être une question moi, que je me suis posée là, en préparant ce que j'allais raconter, c'est quelle est l'incidence de l'état d'urgence et un peu plus globalement du coup aussi de cette course en avant sécuritaire sur la contestation sociale. Et on pourrait décliner en deux questions sur les formes de la contestation sociale, voilà, comment les modes d'action évoluent dans ce contexte-là, et aussi sur le niveau de la contestation sociale. Alors sur les formes de la contestation sociale, il me semble que d'abord, ça crée des modes d'action qui sont de plus en plus illégaux, pour une raison simple, c'est que, par exemple, quand vous manifestiez il y a encore 5 ans, c'était considéré comme une liberté fondamentale par nos gouvernants. Et aujourd'hui, quand vous manifestez en solidarité avec Gaza, lors de la COP21 ou contre la loi travail, parfois vous vous retrouvez mis hors la loi alors que vous n'avez rien changé à votre pratique. Ça, c'est le premier effet sur les formes de contestation. Et le deuxième, c'est aussi que ça crée une radicalisation des formes de contestation au sens où sont apparues ou ont réémergé, parce que je crois que là-dedans, il faut faire assez attention avec cette rhétorique de la nouveauté, du nouveau militantisme, etc. Mais bon, et puis en plus, il y a différentes temporalités aussi qui s'entrecroisent. Mais quand même, sur le temps proche, là, on a vu, moi il y a deux phénomènes que j'identifie, hein, c'est le cortège de tête. Le cortège de tête, je veux dire, il y a toujours eu des black blocs, mais ils étaient en queue de manifestation. Ils étaient 10, 20, 30, 50 maximum. Là, on a eu jusqu'à 2000, 3000 personnes qui étaient en plus en tête de cortège, qui prenaient la place normalement, de manière coutumière, attribuée au syndicat. Et donc là, je pense que voilà, il y a quelque chose qui se joue par là. En plus, on pourrait l'écho que rencontrent notamment les textes du comité invisible, les thèses appellistes, un site comme Lundi Matin, ce genre de choses, peut aussi nous dire quelque chose de sensibilité qui bouge un peu. Et en lien avec tout ça, je pense aussi que ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, alors là, bientôt, ça risque de... Puisqu'il n'y aura probablement plus d'aéroport, il y aura peut-être moins de raisons de rester à Notre-Dame-des-Landes. En l'occurrence, il y a un certain transfert, circulation vers Bure, donc ça va peut-être ça se recompose vers là-bas. Mais là aussi, on a des formes d'action qui sont, à mon sens, une forme de radicalisation de la contestation. Et alors, il y a une autre question, mais là, qui est vraiment très, très difficile. Et sur le terrorisme, je ne sais pas pourquoi j'y pense là, c'est Isabelle Sommier dans son petit livre, là, sur... c'est pas celui auprès de l'Université de Rennes, c'est La violence révolutionnaire, auprès de Sciences Po. Elle dénombre de mémoire 115 définitions du terrorisme. Donc voilà, ça dit ce que ça dit, quoi. Donc autre question, qu'est-ce que cette logique sécuritaire fait sur le niveau global de la contestation, quoi, pour le dire vite, est-ce que ça conteste plus ou pas? Et là, c'est compliqué parce que, il faudrait en réalité faire des enquêtes aussi pour le savoir, mais cette question, c'est une question que se posent de toute façon, en général, très souvent, les historiens, sociologues des mouvements sociaux, celle des effets de la répression sur les mouvements sociaux, et c'est toujours, c'est à double tranchant parce que d'un côté, il y a de la répression, donc ça suscite des nouvelles vocations, ça ouvre une nouvelle cause, la défense des libertés publiques, la solidarité avec les amis qui sont en procès, etc. Et en même temps, c'est aussi cette répression un obstacle très concret à la manifestation, quoi. Je veux dire, vous hésitez à y aller, vous savez que vous risquez de perdre un œil, que vous risquez un procès, en même temps vous êtes en train de passer un concours de la fonction publique, vous n'avez pas envie que. Et donc voilà, je pense que ça a des effets contradictoires, donc c'est pas facile à... On a des moyens de le mesurer, on pourrait le faire, il y a des travaux dans ce sens-là, mais voilà, je pense que ça, c'est assez compliqué. Deuxième temps, ça n'a plus rien à voir, maintenant je me positionne plus... si vous voulez, le débat tel qu'il est, tel qu'il est globalement posé aujourd'hui là, dans la société française, c'est en gros, est-ce que l'état d'urgence menace nos libertés, menace notre régime démocratique, ou au contraire, est-ce que la sécurité, c'est la première des libertés, et c'est grâce à ça qu'on va protéger la spécificité de notre mode de vie, puisque maintenant c'est nos modes de vie, nos valeurs, etc. Et donc cette question, l'état d'urgence est-il garant ou fossoyeur de la démocratie ? Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais appelé mon intervention, l'état d'urgence contre la démocratie, j'ai envie de dire... Elle est très mal posée, cette question, en fait. Je pense que les deux termes, état d'urgence et démocratie, sont très mal choisis, et parce que l'idée que je vais essayer de défendre de manière absolument expéditive et caricaturale, c'est qu'on n'est ni en démocratie ni en état d'urgence. Et donc, du coup, la question, est-ce que l'état d'urgence menace la démocratie, finalement, c'est pas vraiment la question du jour, puisqu'on n'est ni en état d'urgence ni en démocratie. On n'est pas en démocratie, pourquoi ? Pour des raisons que vous connaissez bien, qui sont que... sais pas combien de temps de notre vie éveillé, je veux dire hors sommeil, on passe dans une entreprise, parce que beaucoup d'entre nous travaillent quand même dans des entreprises. Alors, bon, pas forcément, ici on n'est peut-être pas représentatif, mais voilà. L'entreprise, c'est pas une forme démocratique. L'entreprise, c'est une forme d'organisation féodale, hyper hiérarchisée, ce que vous voulez. Donc voilà. Après, le temps que vous passez pas dans l'entreprise, en général, vous le passez peut-être en famille. Bon, la famille, en tout cas, le modèle dominant de la famille patriarcale, c'est assez peu démocratique aussi. Donc, si vous voulez déjà, peut-être que 70% de votre vie éveillée, vous le passez dans des formes d'organisation qui sont non démocratiques. Alors vous me direz, oui, mais les 30% restants, quand on est citoyen, qu'on se réunit, qu'on va voter, bon, je ne sais même pas si ça fait 30% de notre temps, mais supposons, là c'est démocratique parce qu'on peut voter. Mais là, encore, j'ai envie de vous dire non, enfin non, enfin, vous savez comme moi qu'on n'est pas dans des démocraties, on n'est pas non plus évidemment dans des régimes fascistes ou totalitaires, ou ça, c'est, cette rhétorique-là, je pense qu'elle est extrêmement dangereuse aussi, mais on est juste, enfin il y a des mots pour ça, il n'y a pas juste totalitarisme ou démocratie, on est dans des oligarchies qui sont des oligarchies libérales, pluralistes, alors peut-être avec une tendance aujourd'hui un peu moins pluraliste et un peu moins libérale, un peu plus sécuritaire, etc. Mais, et ça, c'est les fondateurs, c'est pas des gens d'extrême gauche qui disent ça, enfin, c'est les fondateurs des régimes politiques modernes qui, quand ils fondent ces régimes, disent surtout on fait pas des démocraties, parce que la démocratie c'est le pouvoir des incompétents, c'est le pouvoir des foules, c'est le pouvoir de n'importe qui, donc il faut voilà, des élections qui vont confier le pouvoir aux meilleurs, la compétence c'est important si on veut que tout ça aille dans la bonne direction, bon voilà ces régimes, et après on les a requalifiés, bon, ces choses là sont connues aussi, on les a requalifiés de démocratie parce que c'est pour différentes raisons. Donc voilà, premier point, on n'est pas en démocratie, mais ça c'est assez connu. L'autre idée que je voudrais développer, c'est qu'on n'est pas vraiment dans... Enfin, alors oui, évidemment, d'un point de vue juridique, on est encore là jusqu'au 30 octobre sous un état d'urgence, donc on est dans l'exception, mais on n'est pas obligé de prendre le droit pour parole sacrée. On a aussi le droit en tant que citoyen de se demander ce que veut dire exception. Est-ce que quand le droit nous dit qu'on est en situation d'exception, est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Et là, c'est tout ce qui a été montré par Vanessa. C'est que l'exception aide à normaliser. Et donc moi, la question que j'ai envie de poser, elle est extrêmement simple. C'est, pour moi, une exception, comment on définit l'exception? Ben, l'exception, c'est un écart par rapport à la norme. Donc si l'exception s'est normalisée, si l'exception est devenue la norme, d'un point de vue purement logique et conceptuel, c'est plus de l'exception. On peut continuer à l'appeler exception, mais c'est plus de l'exception. Et de même, une urgence qui est devenue permanente, ou une crise qui dure, mais c'est plus une crise. Une crise, c'est un moment conjoncturel qui ne dure pas par définition, je veux dire, c'est l'opposé. Donc ces mots-là, je pense qu'il faut, voilà, je pense qu'il faut... qu'il faut les questionner. Et il y a une deuxième, c'est pas pour pourquoi est-ce que je remets en question un peu, enfin je propose de problématiser ces notions d'urgence et d'exception, c'est pas juste pour une raison purement logique, parce que la définition ça me convient pas, c'est très politique aussi, c'est, si vous voulez, alors je vais le dire avec l'idée de crise, et après je reviendrai sur, je fais un petit détour par l'idée de crise. On dit depuis 2008 qu'on est en situation de crise, c'est la crise économique. Mais en réalité, la crise...
Elle est finie, la crise économique.
Alors, voilà, elle est finie.
Non, c'est français, ça.
D'ailleurs, en Espagne, ils disent un des slogans les plus repris pendant le Quinceme et encore aujourd'hui, c'était « No es una crisis, es una estafa ». Ça veut dire que ce n'est pas une crise, c'est une arnaque, en fait. Ils se portent très bien, eux. Enfin, les profits, ça va, ils sont repartis tout de suite. Et ceux qui étaient au bord de la banqueroute, ils ont été renfloués avec de l'argent public. Donc, y a pas, pour eux, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème. Et l'idée, c'est quoi, si vous voulez? C'est que la crise, en fait, c'est peut-être pas tant un fait économique, une situation économique, qu'une rhétorique, un discours qui vise à anesthésier l'esprit critique, à désarmer les populations, à nous mettre, en fait, dans un état de, oui, dans un état de peur, dans un état de sidération, où finalement on abdique notre conscience critique. C'est, si vous voulez, il y a toute une rhétorique de la crise. Et d'ailleurs, comment on fait quand on a un gouvernement néolibéral et qu'on veut privatiser, je sais pas, les hôpitaux, l'université, etc. Ben c'est simple, on dit qu'ils sont en crise. On dit, regardez, c'est la crise dans les hôpitaux, regardez tous les dysfonctionnements, regardez à l'université, c'est la crise. On a la solution toute prête, vous inquiétez pas, on va privatiser tout ça. Donc c'est en ce sens-là que je veux dire que, tout à l'heure tu disais avec Marx, à qui bénéficie le crime, à qui bénéficie la crise aussi, à qui ça bénéficie de dire qu'on est en crise. Et à qui ça bénéficie de dire qu'on est, parce que ça produit le même effet, de dire qu'on est, que c'est l'exception, que c'est l'urgence, c'est la menace, attention, c'est le bord de, on est au bord du chaos, nos institutions vont se déliter, nos modes de vie, on va plus pouvoir aller en terrasse, boire un café. Bah oui, ça produit des, ça produit un climat dans lequel ensuite vous pouvez dire aux citoyens, laissez faire les professionnels, c'est l'urgence, on gère, quoi. Voilà. Alors, il me reste encore 5 minutes ou pas ? J'ai dit tout ça pourquoi ? Pour dire que cette question de est-ce que l'état d'urgence menace la démocratie, c'était pas vraiment une question très actuelle. Mais en fait, ça ne nous empêche pas quand même de poser la question. On peut la poser de manière un peu abstraite, on peut faire une expérience de pensée. Et si on était en démocratie ? Et si dans cette démocratie, quelqu'un passant par là avait l'idée d'instaurer l'état d'urgence ? Est-ce que ça menacerait la démocratie ? C'est comme ça que je vais finir en 5 minutes. On va faire cette expérience de pensée. Imaginons qu'on soit en démocratie et qu'on ait instauré un état d'urgence. Alors, à mon avis, et là c'est la thèse que je vais défendre, ça coince à deux niveaux entre urgence et démocratie. Ouais, c'est vraiment pas compatible pour deux raisons. La première raison, c'est une raison de temporalité. On est sur deux temporalités, à mon avis, qui sont contradictoires. L'urgence, par définition, hein, c'est une forme de temporalité. L'urgence, c'est il faut agir vite, à la hâte, de manière immédiate. C'est la priorité des priorités. Et la temporalité de la démocratie, c'est quoi ? Bon, alors, en l'occurrence, moi, j'ai un collègue qui s'appelle Antoine Chollet. Je le cite parce qu'il a publié sa thèse, qui est un ouvrage magnifique, qui s'appelle « Les temps de la démocratie », qui fait 600 pages et qui revient sur cette question. Moi, je vais dire en 10 secondes ce que lui travaille en 600 pages. Donc si un jour il regarde cette vidéo, qu'il m'en excuse. La démocratie, qu'est-ce que ça suppose comme temporalité ? Bah, au contraire, ça suppose une temporalité qui prend du temps, quoi. Ça suppose une certaine forme de patience, peut-être une forme de lenteur, pour des raisons simples. C'est que les piliers d'un régime démocratique, c'est quoi ? C'est la participation de toutes et tous, un temps pour la délibération, c'est-à-dire on ne fait pas que se réunir pour voter, on prend le temps aussi d'échanger nos points de vue parce qu'ils peuvent évoluer en fonction de ce qu'on entend les uns les autres. C'est aussi le respect de certaines procédures, de certaines règles qui ont été mises en place. Et tout ça, tout simplement, ça demande un peu de lever le pied sur la pédale, de prendre du temps, de ralentir. Et donc, voilà, il me semble que ça s'accommode mal d'une pression, d'une injonction à l'urgence. D'ailleurs, je fais un point là-dessus, les fondateurs aussi, ceux qui ont rédigé les constitutions, bon, en l'occurrence celle de la Ve République, ou bien en 78, la constitution espagnole, ils ont prévu des situations dans lesquelles il y avait menace grave pour l'ordre public, dans lesquelles il y avait peut-être urgence. Et donc il y a des articles, il y a l'article 16 en France, il y a l'article 116 en Espagne, il n'y en a pas dans toutes les constitutions, mais un certain nombre de constitutions ont ce type d'article. Et les constituants qui ont écrit ces articles, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit face à une menace grave, voilà, une attaque, une invasion, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils n'ont pas dit « Ah ben on va faire des référendums, on va aller consulter les gens, on va prendre le pouls de la population, on va disséminer les pouvoirs, on va radicaliser la démocratie ». Non ! Ils ont dit « Au contraire, on va suspendre la démocratie parce que si on veut la protéger, eh ben il faut réagir là, efficacement, rapidement, de manière stratégique et coordonnée. Et ça, comment on peut bien le faire ? Eh ben en concentrant les pouvoirs. » Voilà, dans une seule, en général dans l'exécutif, entre les mains d'un seul. Et donc voilà, je pense que ça aussi, ça montre, et je pense qu'ils ont vu, enfin quelque part, je pense qu'ils n'ont pas complètement tort sur ce point-là. C'est que face à des situations vraiment dramatiques, bah peut-être que des fois, oui, s'il y a vraiment urgence, il faut effectivement concentrer le pouvoir. Et quand on regarde aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une littérature, là, on parle d'urgence face et d'exception face à des terroristes, mais il y a aussi une vaste littérature sur la question de la crise et de l'urgence climatique. Et Hans Jonas, voilà, on cite tout le temps sur le sujet, qu'est-ce qu'il propose à la fin de son livre sur le principe responsabilité ? Il dit, les gens, si on consulte les gens, si on a des régimes vraiment démocratiques, mais en fait on sera tous sous les eaux au moment où on aura enfin pu décider de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc il dit, pour lutter contre le réchauffement, il faut, et c'est ses mots, une tyrannie bienveillante. Voilà, la proposition de Hans Jonas, qui fait autorité pour beaucoup d'écologistes, dont je ne sais pas forcément s'ils l'ont lu jusqu'au bout de son ouvrage, c'est la proposition, et il détaille ça, hein, sa tyrannie bienveillante, voilà, c'est pas pas juste un jeu sur les mots, c'est, il propose vraiment une tyrannie bienveillante pour lutter contre ça. De manière un peu moins hard, Dominique Bourg, qui est philosophe suisse, qui a développé aussi beaucoup de travaux, par ailleurs très intéressants sur le sujet, lui, il propose de créer une troisième chambre d'experts qui aurait pouvoir de veto sur ce que décide la représentation nationale. Donc là aussi, alors on ne va pas jusqu'à la tyrannie, mais on va vers une technocratie, expertocratie qui pourrait mettre un veto sur ce que décide la population, ou en tout cas ses représentants. Et alors, dernier point que je voulais mentionner, c'est donc entre démocratie et urgence, ça coince au niveau de la temporalité, mais ça coince aussi au niveau de la forme même de société qu'on veut mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la rhétorique, parce que c'est une rhétorique, c'est un discours de l'urgence, invoquer l'urgence comme ça, qu'est-ce que ça crée ? Mais ça crée du consensus, ou en tout cas c'est ça l'objectif, c'est de créer du consensus quand on, au lendemain du 13 novembre, c'est l'union sacrée, l'union nationale, et toute personne qui ose émettre le moindre doute est mise hors du jeu. Il est hors de la communauté, toute critique est illégitime. Tous ceux qui s'aventurent à dire « oui, mais l'Union nationale quand même peut-être, l'Union sacrée peut-être », vous êtes complices des terroristes. Donc si vous voulez, cette rhétorique de l'urgence, pour moi, elle a vraiment des effets consensualistes très forts, et on le voit à niveau, je refais un parallèle avec la question climatique, parce que parler de l'urgence climatique, de l'urgence et de la crise écologique, c'est pareil. C'est quoi le discours ensuite ? C'est « on est tous concernés, on est tous dans le même bateau, c'est l'humanité entière qui est menacée ». Mais non, je suis désolé. Enfin, je suis désolé. Il n'y a qu'à voir quand les ouragans, les mêmes, ils passent à Haïti, puis ensuite en Californie. Enfin, il n'y a qu'à voir. Il y a des tonnes de travaux sur le fait que les premiers affectés aujourd'hui, les premiers déplacements de population affectés par le réchauffement climatique, c'est les plus mal lotis. Donc, on n'est pas tous dans le même bateau. On n'a pas tous exactement les mêmes intérêts. Je pense qu'il faut. Moi j'ai été formé intellectuellement en lisant, il est décédé quand j'ai commencé à lire, mais quelqu'un qui s'appelle Claude Lefort. Et Claude Lefort, c'est un philosophe qui nous dit quelque chose de simple, il nous dit « Toute société, qu'elle soit démocratique ou pas, toute société est divisée. Elle est divisée entre ce qu'il appelle des grands et des petits, des dominants, des dominés. » C'est une idée qu'il va chercher chez Machiavel. Et il dit « Et par contre, ce qui fait la différence entre les sociétés démocratiques et les sociétés non démocratiques, c'est que les sociétés démocratiques, elles acceptent leur division qui est constitutive de toute société. Elles la reconnaissent, elles la laissent s'exprimer. Les sociétés autoritaires, voire totalitaires, elles nient la division. » Et en l'occurrence, il me semble que tous ces discours sur l'urgence, ils ont tendance nier la division qui, pour moi, est constitutive d'une forme de société démocratique. Et donc, juste pour dire un mot quand même, pour conclure sur... en faisant quelques recherches pour préparer tout ça, je suis tombé... Il y a très peu de travaux en philosophie politique sur l'urgence. En fait, il y en a même... Enfin, c'est un terme qui ne revient pas, qui n'est pas conceptualisé par les philosophes politiques. Il n'y en a qu'un seul, très récemment, que j'ai identifié, qui est enseignant à Bordeaux, qui s'appelle Christophe Bouton, qui a écrit un livre au bord de l'eau en 2013 qui s'appelle « Les temps de l'urgence » et qui a une idée, alors il y a beaucoup d'idées dans son livre, mais il y en a une que j'ai trouvé peut-être particulièrement intéressante et que je voulais aussi verser dans le pot commun pour conclure. Il parle d'extension du domaine de l'urgence. Pour dire quoi ? Pour dire que l'urgence était autrefois cantonnée à certains domaines très précis. Les urgences, c'était surtout à l'hôpital, et puis les secours en mer, les pompiers, etc. C'était ça, l'urgence. Et il dit aujourd'hui, l'urgence se répand dans tout un tas de nouveaux domaines. Le droit, alors l'état d'urgence, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. La politique, il faut procéder vite, par ordonnance. L'environnement, c'est l'urgence climatique. L'économie, les marchés financiers, aujourd'hui, on crée des logiciels où l'enjeu, c'est de gagner un milliardième de seconde sur ses concurrents, parce que c'est en jouant sur des milliardièmes de seconde qu'on peut emporter des pactoles en bourse. Le travail, c'est le capitalisme qui va toujours vers une accélération des cadences. Les médias, c'est le scoop et les zappings. Et puis même dans la vie quotidienne, cette hyperactivité, ce sentiment de manquer de temps en permanence. Donc voilà, il parle d'une extension du domaine de l'urgence. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'avais trouvé ça intéressant. Donc je voulais vous en faire part. Merci beaucoup. Merci.